19h21, mais je pense que vous avez rectifié vous-même. Allez, on ne peut pas dire, qu'on ne pourra pas dire, qu'on ne l'a pas vu venir, qu'on n'a pas tout vu venir. D'abord la victoire de Christiane Taubira dans cette primaire populaire, et puis l'absence de miracle. Comment les autres candidats qui ont dit non avant seraient-ils prêts à dire oui aujourd'hui à un mariage à plusieurs qui n'a rien du mariage d'amour? Tout cela était écrit, alors est-ce que la donne sera différente si une dynamique sort des sondages? Pas sûr, en tout cas, on en est là ce soir. Si quelqu'un quitte la compétition à gauche, ce sera plutôt Anne Hidalgo. Mais on a bien compris que ce ne sera pas par souci d'union si la maire de Paris finit par jeter l'éponge. En l'état, elle n'en prend pas le chemin. Est-ce qu'on dit tout ça pour ça? Est-ce qu'on dit tout ce travail de la gauche destiné à passer la présidentielle, mais à se concentrer uniquement sur les législatives à suivre, par exemple? Cette confusion, qu'est-ce qu'on dit? La faute à qui? Celle de ceux qui refusent de se rallier? Mais à qui? Celle d'une primaire populaire qui pense que, fort de ses 400 000 votes, elle peut dire à la gauche ce qu'elle doit faire, mais une primaire populaire aussi qui a 400 000 votants, et ça ne se balaye pas d'un coup de manche. Reste qu'à la fin, en l'état, il n'y a pas d'union, il y a quand même une élection, et c'est dans 69 jours. C'est le téléphone sonne ce soir, et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Dans l'ordre, ça commence avec André ce soir. Bonsoir André, bienvenue.
On vous écoute. C'est André, hein, c'est André.
Andresse, pardonnez-moi, Andresse, oui, oui. On vous écoute.
Voilà, donc, concernant le thème de ce soir, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une élection, une primaire informelle, où des gens ont voulu seulement exprimer le besoin d'avoir quelqu'un qui soit un point de convergence, pour le dire simplement, à gauche, face à cette future droite d'avant-guerre qui résonne de loin, quoi. Cette droite décomplexée et cette, pour pas dire l'extrême. Et donc, face à ce danger, face à la convergence des points d'accord entre les différents partis de gauche, hormis l'essentiel, une sixième république entre Jadot, Taubira, Mélenchon. Tous ces égaux devraient pouvoir s'effacer face à l'urgence climatique, l'urgence de l'incertitude géopolitique.
Mais Andrés, pardon de vous interrompre, parce qu'on comprend où vous allez, mais donc s'effacer au profit de qui? On a l'impression qu'on revient toujours à la même question, en fait.
Alors, au profit de qui? Au profit de celui qui aura la noblesse, ou de ceux qui auraient la noblesse, de dire « je m'efface ». Peu importe, c'est pas à moi de dire à Mélenchon « je m'efface ». Monsieur Mélenchon est investi, mais en même temps il fait peur. Madame Taubira arrive quelque part d'un point de vue, mais qui, voilà, moi dans mon absolu, oui je rêve d'une Madame Taubira avec une Eva Joly, avec un Ruffin, je pourrais dire, ah oui, et une sixième république avec des gens, avec un ministre de l'éducation qui sortirait du fond, avec des gens qui sont dans une convergence, avec une réalité évidente, c'est que l'écologie va nous ramener tous à la réalité. Donc il est très important qu'il y ait des gens, qu'il y ait des noblesse, et pour dire, eh ben, moi président ou moi présidente, tu seras ministre de l'Intérieur. Une sixième république, la constituante, alors ou à quoi sert le président? Eh ben, amener à cela, amener à ce résultat, Andresse. Et vous verrez que des gens voudront voter, des gens se réveilleront. Putain, on a une chance. Enfin, les choses arrivent. Voilà mon propos, madame.
Eh ben, on a entendu, Andresse, et merci beaucoup aussi pour votre enthousiasme, d'ailleurs, et votre petit passage dans le téléphone sonne pour discuter ensemble autour de cette table. Françoise Fressot, c'est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste au Monde, bien sûr. Rémi Lefebvre est avec nous également. Bonsoir, monsieur Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à Lille, où vous êtes en ce moment. Vous avez écrit notamment Les mots des partis politiques aux presses universitaires du Midi. Et puis Antoine Gignot est là également. Rebonsoir. Bonsoir. Antoine. C'est vous qui suivez la primaire populaire et la gauche pour cette élection-là. Françoise Fressos, on entend ce que dit notre auditeur Andrés sur la noblesse, en fait, et sur l'idée que, au fond, ce que j'entends en creux, c'est, même si ça marche pas, au moins on perd avec cette noblesse-là. Est-ce que vous entendez ça aussi en creux?
que c'est que tout ça manque de noblesse.
Effectivement, c'est ce qu'on ressent beaucoup à la base, c'est-à-dire une sorte d'exaspération, de pas comprendre pourquoi la gauche n'est pas en état de pouvoir challenger le pouvoir, alors qu'au fond, il y a un certain nombre de thèmes en ce moment qui sont très porteurs pour elle. Je pense au pouvoir d'achat et je pense aussi à l'écologie. On peut comprendre aussi cette exaspération quand on voit que tous les programmes à gauche portent la cause écologique. Alors, je suis plus réticente sur la 6e République parce que je ne suis pas sûre du tout qu'il y ait un accord pour passer à une 6e République. Est-ce que c'est l'urgence ? Par exemple, le Parti Socialiste n'est pas du tout sur la ligne de passer à la 6e République. Donc, je pense que la difficulté qui se présente à la gauche, c'est qu'elle a quand même des points à trancher très importants. Je pense qu'elle a été aussi extrêmement fragilisée par la défaite de 2017, où il y avait quand même un accord pour gouverner et qu'on a vu au fond 5 ans d'explosion d'une majorité parce que l'accord était pas du tout assuré. Et donc, je pense qu'il y a pour la gauche un enjeu majeur, c'est de sécuriser son retour au pouvoir, c'est-à-dire de montrer aux Français que non seulement elle a envie de gouverner, mais qu'elle est en capacité de gouverner. Et ce travail-là, il n'a pas été fait. On est à 70 jours du premier tour de la présidentielle et c'est très en retard.
Mais est-ce que, Rémi Lefebvre, vous avez le sentiment, vous, que ce qui s'est passé hier entame ce travail-là ou c'est un ratage, en fait ?
Écoutez, c'est très compliqué. On a l'impression que la situation est inextricable parce qu'on voit s'affronter deux logiques et deux légitimités. D'un côté, celle des vieux partis qui sont de moins en moins représentatifs, qui incarnent une forme de légitimité idéologique à ne pas négliger, hein, la social-démocratie, l'écologie, le populisme, qui ont des offres politiques à faire valoir, mais qui en fait ne sont pas en dynamique et du coup dont les jeux apparaissent complètement artificiels puisque la perspective de victoire s'éloigne. Et puis de l'autre côté, une dynamique citoyenne qui est portée par des logiques d'opinion assez unitaires, opposées aux appareils, qui dénoncent en fait ce jeu mortifère et corporatiste des appareils. Et entre les deux, finalement, la processus de la primaire populaire, comme en fait elle n'a pas suscité un consensus des participants, avec ce caractère un peu surréaliste d'une élection où des candidats sont en lice alors qu'ils n'acceptent pas le jeu, bah du coup ça ne tranche rien. Et du coup, si je me permets de cette métaphore littéraire, on hésite à gauche entre le vaudeville, Uberoi et En attendant Godot. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation qui peut faire sourire, qui est absurde, qui est désespérante, et c'est une situation qui n'est jamais réglée en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette question de l'offre du leadership, elle est toujours pas réglée, alors qu'on est, comme vous l'avez rappelé, à 70 jours du premier tour. Donc l'élection présidentielle, c'est demain.
Mais alors, elle est pas réglée, Françoise Fraisseau, ça c'est vrai. Mais est-ce que le pari, c'était vraiment tout le monde va se rallier à mon panache blanc ? Est-ce que vraiment on a imaginé à un moment qu'à la suite de la primaire populaire, il allait avoir ce ralliement de chacun ? On savait bien que ça ne
se produirait pas. Oui, on savait, absolument, hein, on savait. Mais au fond, pourquoi on assiste à ce phénomène désespérant où toutes les initiatives échouent ? Parce que je pense qu'il y a des choses très profondes qui se sont jouées après la défaite de 2017. Et la chose la très profonde, c'est qu'au fond, le parti qui tenait, qui avait le leadership de la majorité plurielle, le Parti Socialiste, est en très, très grande difficulté. Le président sortant, François Hollande, n'a pas pu se représenter et on voit, au fond, l'effondrement de cette social-démocratie qui, en plus, n'est plus portée par des forces intermédiaires parce que les syndicats sont en déclin. Et donc, voilà. Mais, donc, on assiste à une compétition pour que tous ceux qui étaient satellites du Parti Socialiste prennent, au fond, l'avantage. C'est Jean-Luc Mélenchon, qui a une certaine légitimité. C'est aussi Yannick Jadot qui se dit « Moi, je suis maintenant en capacité de détrôner la social-démocratie. » Et on a cette primaire populaire qui, au fond, montre l'exaspération de la base en disant « On veut être unitaire, mais les partis leur disent « Mais vous représentez qui ?» Vous représentez 392 000 participants. Autrement dit, est-ce que la démocratie directe peut ébranler la démocratie indirecte ? Et comme personne n'a vraiment en situation de force, on aboutit à cette situation-là. Et donc, on est au fond dans un processus de décomposition-recomposition qui prendra certainement beaucoup de temps, mais qui marque presque l'échec de cette gauche à la campagne présidentielle.
Ça veut dire qu'on a enjambé déjà la présidentielle. Personne, évidemment, ne le dira en face à face, mais l'idée, c'est ça.
Les jeux, je pense que les jeux de compétition sont d'autant plus forts que maintenant la dynamique est tellement faible que personne ne pense que la gauche peut l'emporter à la présidentielle. Mmh. Et donc, ça nourrit cette compétition en se disant, eh bien, après, qui va ramasser? Alors, les législatives, je pense que ça va être un drame pour tout le monde, mais ça sera après les législatives, quelle est la force dominante qui peut essayer de recomposer?
Ça veut dire, et après on retourne au standard, Rémi Lefebvre, est-ce que si une dynamique sort en même temps que le nom de Taubira, puisque tout le monde dit qu'on attend effectivement de voir comment les choses se rééquilibrent au premier sondage, si une dynamique sort, est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça fait bouger les lignes? Ou est-ce que, de toute façon, il est trop tard pour faire bouger les lignes de manière, disons, concrète?
Écoutez, il y a plein de choses qui peuvent se passer quand même. C'est-à-dire que lors de la dernière élection présidentielle, souvenons-nous, il y a eu une primaire entre Emmanuel Valls et Benoît Hamon. Benoît Hamon a été assez dopé en fait par cette primaire, hein, donc il a gagné une dizaine de points dans les sondages. Et puis les débats sont arrivés et c'est finalement Jean-Luc Mélenchon qui a raflé la mise et qui, alors qu'il était à des niveaux de sondage assez proches de ceux d'aujourd'hui, en fait a réussi à siphonner l'électorat socialiste et écologiste, et a raflé la mise. Donc on ne peut pas complètement exclure une dynamique de ce type, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, et les sondages exprimant en fait cette dynamique de vote utile, à un moment donné, un candidat, à la faveur de la campagne, qui n'a pas vraiment démarré aujourd'hui, puisse finalement démontrer ses capacités de fédérer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le jeu est quand même assez différent, et l'image aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon est plus abîmé qu'en 2017. Et par ailleurs, le débat aujourd'hui est considérablement droitisé. C'est-à-dire que non seulement la gauche est émiettée, est morcelée, mais en fait, elle n'est pas audible parce que le débat est tellement droitisé que finalement, on n'entend que le bruit de la division. Mmh. Et effectivement, cet éclatement empêche la gauche de peser sur l'agenda et elle subit l'agenda. Donc elle est à la fois divisée, la gauche, mais en plus, et c'est un autre phénomène qui renvoie à la défaite idéologique et culturelle de la gauche, sans doute aujourd'hui, idéologiquement, elle n'arrive plus à imprimer et à peser sur l'ordre du jour électoral.
Nicolas est avec nous depuis les Vosges. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, vos intervenants viennent d'indiquer qu'il y avait une compétition, que la gauche était inaudible. Et je pense qu'effectivement la campagne manque d'intérêt et que la primaire citoyenne a ajouté un petit peu de cacophonie et dilution des voix de gauche. Et à mon avis, pour que les idées socialistes et écologiques prévalent sur les personnes, et contrairement à ce qu'a dit l'intervenant précédent, je ne souhaiterais pas que Christiane Taubira ou Yannick Jadot s'effacent, mais qu'ils incarnent les idées de socialistes et écologiques au second tour, en proposant dès maintenant un duo président ou présidente et premier ministre. Ça permettrait de clarifier les choses, à mon avis, et ça serait une vraie prise de risque et une première probablement dans l'histoire de la Ve République, où on connaîtrait à l'avance un duo présidente et son premier ministre, ou vice-versa.
Merci beaucoup.
Et l'originalité. Je pense que ça sera un vrai plus, une vraie dynamique pour la suite.
Merci pour cette dynamique-là, Nicolas, et cette suggestion, pourquoi pas. Françoise Fressos, un ticket, comme le dit Nicolas, ça ne s'est jamais fait.
Si, ça s'est déjà fait dans une campagne, je ne saurais plus m'en souvenir, mais je sais que ça n'avait pas été un succès. Je sais qu'un des candidats avait dit « je prendrais telle personne comme Premier ministre ». Je crois que c'était deux fermes, mais je suis plus sûre. Mais en tout cas, ça n'avait pas créé la dynamique attendue. Non, je pense pas que ce soit...
Et puis surtout, j'ai envie de dire, alors, est-ce que c'est Madame Présidente, Monsieur le Premier Ministre ou Monsieur le Président, Madame la Première Ministre à la
oui.
fin, ça revient toujours à la même chose.
Je pense pas que ce soit ça le fond. Au fond, le fond, c'est pourquoi est-ce que la dynamique ne se crée pas à gauche? Pourquoi il y a tout d'un coup quelque chose qui ne se crée pas à gauche? Et dans une campagne présidentielle, au fond, c'est une alchimie entre un candidat, un projet porteur. Et il y a quand même en toile de fond, je pense qu'il faut aussi évoquer à quel point le quinquennat Macron peut aussi être un facteur de déstabilisation par la gauche, parce que il y a eu la politique du quoi qu'il en coûte qui a été menée quand même pendant 2 ans. Autrement dit, le gouvernement, dès qu'il y a une alerte sur le pouvoir d'achat, a quand même la capacité de réagir extrêmement vite. Et donc, pour revenir au pouvoir, il faudrait pratiquement prouver qu'ils peuvent faire davantage. Et il faudrait qu'ils arrivent à prouver qu'ils peuvent faire davantage en étant uni, sérieux, et ça, on voit bien que là, l'alchimie, elle n'est pas encore là. Donc, il y a tout ça qui aussi handicape le fait que la gauche soit en tellement difficulté.
Facteur de déstabilisation. Pardon, Antoine, je vous en prie.
Est-ce qu'il n'y a pas juste un défaut de confiance au départ dans les partis, quand on voit justement ce refus catégorique de Jean-Luc Mélenchon, peut-être pour rester dans son couloir, mais de Yannick Jadot face à la primaire populaire, beaucoup de voix au sein du parti, de son parti, au sein des écologistes, se sont élevés pour dire s'il y avait été, s'il avait envoyé des signaux positifs,
il
aurait sans doute gagné. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un rendez-vous ? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un manque de confiance de ces partis-là ?
Je pense qu'il y a, c'est une présidentielle, hein, donc c'est ça implique des personnalités aussi. Mettons-nous dans la peau de Jean-Luc Mélenchon. Il en est à sa troisième candidature. Il pense avoir une vision historique. Pourquoi est-ce qu'il renoncerait pour un processus de primaire populaire, bon, dont il soupçonne en plus que les jeux sont pipés et que ça donne la main à Christiane Taubira, qu'on n'a pas vu. Entre parenthèses, ça aussi, c'est quand même un étonnement pour moi. On l'a pas vu pendant 5 ans, puis tout d'un coup, elle surgit. Elle dit, je suis là, j'adore, je butine, je me nourris de vous et je vais gagner. C'est pas crédible. Donc voilà, il faut... je pense que la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme, un peuple. Et quand Jean-Luc Mélenchon se dit, je fais ma troisième campagne, peut-être la dernière, vous pouvez pas le débrancher, c'est impossible.
Et Jadot ?
Et Jadot, lui, il est dans l'idée, et ça c'est depuis les européennes, les dernières européennes, il est dans l'idée qu'il peut, maintenant, là aussi c'est l'histoire de la gauche, c'est-à-dire que les écologistes, Europe Écologie Les Verts, ça a toujours été considéré par les socialistes comme le parti satellite à qui on donne quelques circonscriptions, à condition que vous voulez bien soutenir. Et Jadot, il dit non, maintenant c'est nous, on a été devant vous aux européennes, et maintenant c'est nous qui allons prendre le leadership. Sauf que il est coincé par le fait que Anne Hidalgo essaye de défendre ce qui reste de la social-démocratie, et que Jean-Luc Mélenchon se dit, mais je vois pas pourquoi je m'en irais de cette campagne. Donc c'est fichu, quoi. Ils sont tous ils iront jusqu'au bout, je pense.
Rémi Lefebvre, Françoise parlait tout à l'heure du facteur de déstabilisation qu'a pu être Macron, et notamment les deux dernières années avec ce quoi qu'il en coûte. Moi, il y a un chiffre qui est sorti hier et qui m'a beaucoup estomaqué, qui disait que 36% des électeurs de François Hollande d'ores et déjà savaient qu'ils allaient se tourner vers Emmanuel Macron. C'est beaucoup, 36%.
Oui, c'est une donnée majeure du problème. Si la gauche est aussi basse, hein, puisqu'elle est à peu près 25%, c'est aussi qu'une partie en fait des électeurs de gauche qui s'étaient portés en 2017 sur Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler que 50% des électeurs de François Hollande de 2012 avaient voté pour Emmanuel Macron, et ils s'étaient portés sur lui parce qu'à l'époque il était identifié à la gauche. D'ailleurs, les électeurs de droite le pensaient comme un candidat de gauche. Il avait été ministre, rappelons-le, de François Hollande, et il portait un discours effectivement, alors peut-être qu'il laissait penser déjà qu'il allait avoir une politique économique assez libérale, mais il était plus ambigu en fait en 2017. Et ce qui est très frappant, c'est que ces électeurs de gauche, alors même que Emmanuel Macron est désormais pensé comme un candidat de droite, eh bien ne sont pas revenus au bercail. C'est-à-dire que globalement, il y a toujours effectivement une bonne moitié de ces électeurs qui continuent à voter pour Emmanuel Macron. Alors, deux hypothèses sur ces électeurs. D'abord, c'est parce qu'ils étaient idéologiquement, d'un certain point de vue, devenus plus libéraux, et finalement ils n'attendaient qu'une chose, c'était qu'un candidat social-libéral se détache et les détache en fait de l'électorat du PS. Et deuxième raison, c'est encore pour partie un vote utile, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces électeurs de gauche modérée qui ont très très peur de la droitisation du débat et qui se disent finalement, dans ce contexte où la gauche est faible, où il y a un problème d'incarnation, eh bien Emmanuel Macron peut nous protéger effectivement au deuxième tour éventuellement d'un duel qui n'est pas une hypothèse quand même trop éloignée, qui opposerait un deuxième tour qui opposerait Pécresse à un des candidats de l'extrême droite. Et donc attention, la gauche, son problème aussi, c'est qu'elle n'a pas récupéré cet électorat modéré, et comme par ailleurs c'est un autre problème, elle n'arrive pas à mobiliser les milieux populaires, hein, parce qu'aujourd'hui le problème de la gauche, c'est aussi un problème sociologique, hein. La base quand même sociale de la gauche, ce sont les milieux populaires. Or, les milieux populaires, il participe peu, et donc on risque d'avoir, d'ailleurs, hein, si on part sur ces hypothèses actuelles d'abstention, une abstention assez massive des milieux populaires dans deux mois, et puis une partie de ces milieux populaires, à peu près un tiers, vote pour les partis d'extrême droite. Et donc, du coup, le problème, c'est où sont les réserves de gauche ? C'est-à-dire, la gauche, sociologiquement, c'est quoi aujourd'hui ? Bah, c'est effectivement la fonction publique, les profs, des gens diplômés, libéraux sur le plan culturel et en attente de justice sociale ou écolo. Mais finalement, tout ça, ça ne fait pas de quoi gagner et emporter la mise à l'élection présidentielle.
Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Bruno.
Bah écoutez, j'apprécie votre émission, mais là, j'ai l'impression que nous confondons, que certains auditeurs confondent l'élection présidentielle, qui a un rôle majeur dans le fonctionnement de notre démocratie, de la cinquième plus grande puissance mondiale, avec une élection de délégué de classe. Enfin, franchement, les bras m'en tombent. Je ne reviendrai pas sur le fonctionnement de la primaire populaire. Cette manière de choisir les bons ou les mauvais candidats, d'imposer de manière malicieuse certains qui disaient pourtant « je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas y participer ». Revenons sur la notation, mais qui fait rire beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens. J'ai entendu dire que Mme Taubira avait écrasé M. Jadot et M. Mélenchon. Écrasé de quoi, de combien ? Enfin, pour moi, de pouvoir dire qu'on écrase ou qu'on n'écrase pas, ça se mesure en chiffres ou en pourcentage. À bien plus, à bien moins. Mais c'est ubuesque. C'est ubuesque. Après, avant même que le résultat soit dépouillé, du QG de Mme Taubira, les résultats sont annoncés aux médias. Enfin, mais c'est cousu de fil blanc. C'est règlement de compte à OK Corral au sein de la social-démocratie. Mme Taubira, ne pouvant supporter que Mme Hidalgo soit sur sa gauche ou sur sa droite, chacun choisira. Et maintenant, nous avons des gens qui, je pense, sont sincères, mais qui ont été pris dans une manipulation éhontée. Et je pense y compris dans une tricherie qui n'est pas acceptable. Alors, en plus, la seule chose que moi je voulais dire, c'est que je ne crois pas au personnage providentiel. Bah, sauf que, sur ce qui a été proposé par la primaire populaire, il y avait deux candidats qui avaient un véritable programme. Monsieur Jadot, Monsieur Mélenchon. Et Madame Taubira, qui au passage a fait trébucher la gauche plurielle, parce que ces gens-là l'oublient, alors ils sont peut-être jeunes, a fait trébucher la gauche plurielle en 2001, permettant à Le Pen d'être au deuxième tour. Elle fait 2,36% des voix. L'icône de la gauche, excusez-moi, qui prétend aujourd'hui que les partis, elle a fait trébucher la gauche en 2001 au profit de Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que Madame Taubira incarnerait. Alors Andrés, tout à l'heure, vous dit que M. Mélenchon ait la noblesse de se retirer, mais de se retirer au profit de quoi ? Moi, je vote pour un programme, madame. Je vote pour un programme. Je ne vote pas pour une personne dont je ne sais quel est le programme, quels sont les axes principaux. À aucun moment, on parle des gens. Alors, on parle des grands thèmes, mais c'est facile. Moi aussi, je suis contre la guerre. Moi aussi, je suis contre le racisme. Moi aussi, je suis pour la justice sociale. Mais entre dire ça et proposer un programme ficelé, comme l'a fait, par exemple, les Insoumis, avec ses 20 parlementaires, enfin, personne ne peut dire à gauche décemment que la France insoumise, par exemple,
Bruno,
les parlementaires verts ont trahi les idéaux de la gauche.
On a entendu,
là,
Bruno,
Taubira, voilà, vous voyez,
pardon, excusez-moi, mais comme il y a encore du monde et qu'on voudrait que cette discussion se poursuive, je vous interromps. Du coup, je ne vais pas vous piéger, mais j'ai une question pour vous, Antoine. Est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on saura un moment, effectivement, combien, est-ce que vous avez pu, est-ce qu'on peut voir les bulletins ? Alors, c'est compliqué, hein, parce qu'effectivement, sur chacun des bulletins, on mettait très bien, moins bien, passable, etc.
On peut voir les bulletins, on n'aura pas d'image de... Le problème, c'est qu'en
fait... qu'on pourra dire, oui, Christiane Taubira a écrasé le scrutin, par exemple, visiblement ?
Oui, on peut... Oui, si on regarde le graphique qui représente les différentes mentions de très bien à passable, on s'aperçoit bien, effectivement, qu'il y a une masse... En plus, ils ont été colorés, ces graphiques, pour rendre le scrutin un peu plus lisible. Mais c'est vrai qu'on sort des repères habituels, on sort de ce qu'on est habitué à comparer comme résultat, comme vote final, en fonction du taux de participation, ça bouleverse un peu les repères. pour avoir évoqué ce scrutin-là avec son inventeur qui a travaillé avec le MIT, avec l'université du Massachusetts, avec toute une palanquée de scientifiques autour, pour les interpréter vraiment, il y a un travail scientifique à faire derrière. C'est là un peu la difficulté de ce scrutin-là qui nous paraît à nous très nouveau et qui en même temps n'éclaire pas vraiment une situation qui reste complexe. C'est peut-être le plus mauvais moment pour le tester, j'ai envie de dire. C'est le souci. Le mode de scrutin est pas forcément à remettre en cause en tant que tel. Le résultat est tel qu'il nous éclaire la situation politique aujourd'hui, effectivement, donne une situation qui reste totalement floue.
Françoise Fressos, là-dessus, en effet, on se dit que peut-être que c'était pas effectivement le bon scrutin. En tout cas, qu'il y a beaucoup de choses sur l'idée. Il y a des choses intéressantes, oui. Telles que c'est amené.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai symptôme de l'exaspération de la base et d'un certain nombre d'électeurs de gauche de dire ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc c'est légitime qu'on leur donne la parole. Mais c'est vrai que le fait que ça intervienne dans cette situation-là participe, entretient le trouble. Et moi j'ai quand même été frappée hier par la figure de Christiane Taubira qui dit « J'aime faire campagne, je vais me nourrir de ce que vous dites ». Mais on est à 70 jours de la campagne.
Ce que dit notre auditeur sur le programme.
Donc il faut quand même être sérieux sur le programme, comment je fais. On doit plus être à « je suis en train de l'élaborer avec vous ». On doit être à « voici les premières mesures, voici comment je vais les mener ». Et je crois que la gauche ne se rend pas compte du choc qu'a été pour elle cette défaite de 2017 où on a vu exploser en vol une majorité, un président de la République en exercice. Et comment pouvez-vous prétendre incarner le pouvoir sérieux si vous n'avez pas fait pendant 5 ans un travail très sérieux de reconstruction, de hiérarchisation des mesures et de la façon dont vous allez les mener?
Est-ce que ça ne s'applique pas spécialement au Parti Socialiste? Il y a beaucoup de voix à l'intérieur du PS qui d'ailleurs défendent Anne Hidalgo en disant on ne va pas réaliser en 6 mois ce qui n'a pas été fait en 4 ans. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un inventaire qui aurait dû être fait un peu plus?
Je pense que l'erreur du Parti Socialiste, je pense que l'histoire, vraiment le cœur du sujet, c'est quand même ce qui est devenu le Parti Socialiste. Effectivement, Emmanuel Macron est un homme qui venait du gouvernement de François Hollande. Et lorsqu'il a été élu, on a tout de suite évoqué la trahison. Et donc le Parti Socialiste s'est mis automatiquement dans une opposition systématique à Emmanuel Macron. Avec l'idée qu'au fond c'était un usurpateur et qu'au bout de 5 ans on pourrait revenir au pouvoir parce qu'il aurait échoué. Et en fait Emmanuel Macron a plutôt bien résisté. Et le fait de camper dans une opposition absolument systématique au fond a donné des billes à la gauche qui était beaucoup plus oppositionnelle. Donc la social-démocratie s'est véritablement vidée avec une partie chez Emmanuel Macron et l'autre complètement vide. Donc il n'y a pas eu de travail de fond sur qu'est-ce qui pouvait faire que ça tienne. Et le reste, c'est qu'effectivement, je pense que Jean-Luc Mélenchon aurait pu remporter complètement la mise s'il n'y avait pas eu quand même toute l'image abîmée pendant le quinquennat, c'est-à-dire c'est le procès qu'il avait fait aux policiers qui étaient venus l'interpeller. Je suis la République, on ne me touche pas. Le caractère un peu volcanique et éruptif qui fait qu'il inquiète. Mais sinon, c'est lui qui aurait dû, au fond, ancien socialiste, qui aurait pu récupérer la mise et conduire l'opposition.
Rémi Lefebvre, la prochaine question est pour vous, c'est celle de Jean. Bonsoir Jean. On vous écoute, Jean.
Mais écoutez, je ne reviendrai pas sur la forme. Votre interlocuteur précédent a largement qu'il pensait, je le pense également sur cette mascarade, le mot a été souvent employé. Je crois que, notamment hier soir, à l'annonce des résultats, c'était un condensé de tout ce qu'on a pu vivre pendant cette consultation avec ce QG en duplex, etc. Enfin, c'était absolument affligeant. Mais surtout, ce que je veux noter, c'est aujourd'hui, je me suis reconnu également dans le portrait robot tout à l'heure qui était dressé par un de vos intervenants sur le fait que de nombreux électeurs socialistes, moi j'ai été pendant plus de 30 ans un élu local, maire d'une ville moyenne, du vice-président de métropole, et j'avoue aujourd'hui que je me reconnais dans le fait qu'on n'a plus aujourd'hui de référence socialiste, on ne se retrouve plus dans les valeurs du Parti Socialiste, et ce que je dénonce surtout, c'est cette incapacité au niveau national à avoir le gouffre qui s'est creusé entre le niveau local et le niveau national. Il ne faut pas oublier tout de même que même si le Parti Socialiste est évidemment en déclin, il y a aujourd'hui des régions où des présidents de gauche ont été reconduits, il y a des départements qui sont donc administrés par des majorités de gauche, il y a de nombreuses villes et encore grandes villes avec des majorités de gauche, et les électeurs, mais les élus locaux également, ne se reconnaissent plus du tout dans la manière de conduire le PS au niveau national, et c'est ça qui est grave aujourd'hui. C'est grave parce que évidemment, il va y avoir une défaite, c'est chronique d'une défaite annoncée, là. Pour moi la messe est dite, et ce qui m'a affligé hier soir, c'est d'entendre Mme Taubira incarner les valeurs de la gauche. Il ne faut quand même pas oublier qu'elle a, en 1993, voté la confiance à Édouard Balladur, qu'en 1994 elle était sur la liste aux européennes de M. Tapie, puis ça dit tout à l'heure, elle a fait un peu plus de 600 000 voix en 2002, il manquait un peu moins de 200 000 voix à Lionel Jospin pour être au second tour. Moi, je n'ai pas envie de revivre 2002 une nouvelle fois, et ça a été dit tout à l'heure, je croyais aussi cette crainte, je serai un de ceux, étant un militant de longue date, qui ne pourra pas faire autrement que de voter pour Emmanuel Macron pour éviter de revivre 2002.
Merci beaucoup, Jean, pour votre intervention. Rémi Lefebvre, je disais que c'était une question pour vous, parce qu'effectivement, Jean répond totalement à ce que vous disiez tout à l'heure sur la crainte de certains électeurs d'avoir au deuxième tour à choisir entre Valérie Pécresse et l'extrême droite. Du coup, voilà ce qui est considéré au moment où on se parle comme le vote utile.
Oui, et je pense qu'il y a aussi un désarroi d'un ensemble d'électeurs qui, en fait, pendant très longtemps, se sont identifiés au PS, parce que le PS, c'était un peu le navire amiral de la gauche. C'est-à-dire que c'était une force politique qui, en fait, rassemblait très large, hein, pour le dire vite, de Gérard Filoche à gauche à Manuel Valls à droite. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus, en fait, de colonne vertébrale. C'est-à-dire que il n'y a plus ce parti qui avait une capacité de rassemblement, qui avait une capacité de diversité aussi idéologique, alors qui posait évidemment plein de problèmes et qui faisait que c'est un parti qui était pétri de contradictions internes, mais là aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de cette force-là. C'est-à-dire que la France insoumise aurait pu peut-être, après 2017, occuper cette place, mais elle est sans doute trop radicale. Le leader est abîmé, et donc sa capacité de rassemblement est faible, d'autant qu'elle n'arrive pas à mobiliser, en fait, les milieux populaires. Il y a l'écologie qui veut incarner, en fait, le nouveau récit, et avec, j'allais dire, une certaine légitimité, parce que la social-démocratie, est-ce qu'elle est encore viable aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, aujourd'hui, et on voit quand même, je vais pas paraphraser un film à succès de Netflix, mais c'est quand même stupéfiant à quel point la question écologique n'est pas débattue dans cette élection présidentielle. Et donc, on peut penser légitimement qu'aujourd'hui, la force de progrès à gauche est une force écologique. Hein. Mais le problème, c'est que cette écologie, aujourd'hui, elle n'est pas contre hégémonique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas l'idée écologique, sauf au niveau local, dans des villes, bon, pour des raisons d'ailleurs qu'on pourrait développer, à être aujourd'hui une force qui idéologique qui va aimanter le jeu politique. Et donc du coup, on a cette situation, en fait, hein, de gauche qui est complètement démembré, qui est désarticulé, et puis donc du coup qui rend impossible l'union. Juste pour rebondir sur ce que disait Jean sur le local, je suis un petit peu plus nuancé que lui de cela, parce que les élus socialistes, ils ont été élus, ils sont en tête, enfin ils sont toujours en responsabilité parce qu'ils étaient sortants, pas forcément parce qu'ils sont socialistes. Hein. Faut pas croire que il existe, et globalement les gestions des villes de gauche sont pas très très différentes des gestions des villes de droite. Hein, concrètement.
Ça veut dire qu'il reste un ancrage, en fait, au moins. Ancrage.
C'est un ancrage, alors ça compte, mais finalement, il y a aussi une forme de dépolitisation au niveau local qui est très forte. Voilà, puis juste peut-être pour rebondir, parce que les deux dernières interventions, je les ai trouvées très cyniques quand même sur la primaire populaire. Hein. C'était la version baron noir, manipulatoire un peu de la primaire populaire. C'est
conseil
quand même un
de
peu
classe,
plus compliqué.
A dit notre précédent auditeur.
Oui, veut dire concrètement, c'est aussi une démarche, alors sans doute très maladroite, etc. Mais penser que cette primaire populaire n'a été fabriquée que pour investir une candidate, c'est un petit peu un biais rétrospectif. Et je pense que faut quand même prendre en compte les énergies citoyennes. Alors moi, je suis assez critique sur la primaire populaire, mais quand même cette jeunesse mobilisée, alors parfois un peu naïve politiquement, très écolo, très démocratie, très axée sur la démocratie participative. Je pense que à l'avenir, hein, quoi qu'il arrive, la gauche se reconstruira, pas simplement par ses partis, mais aussi en associant la société civile, les associations, les intellectuels, et que finalement, hein, c'est un peu le message, pour l'instant, on n'a pas tranché entre les deux légitimités, mais c'est quand même aussi une impasse de la gauche partisane qu'on voit. Et donc, à un moment donné, il faudra aussi que ces dynamiques citoyennes soient prises en compte durablement par les partis politiques.
Et on verra s'il y a un avant-après, effectivement, avec peut-être une autre forme, mais en tout cas quelque chose de semblable. Il nous reste une question, c'est la vôtre, Françoise, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, merci. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, alors je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais je vais reprendre les arguments là de votre dernier orateur. Moi, je crois que Madame Taubira, elle s'est adressée à la dignité des gens. Elle s'est adressée à un courage qui existe encore, mais qui était vraiment très découragé. Et puis, les gens, les trois ou quatre candidats qui refusent l'union, je me posais vraiment la question pour savoir où était leur intelligence. Je veux bien que la politique abrutit un peu les gens, mais moi je pensais qu'il y avait des tactiques derrière ça. C'est pas possible qu'il y ait un blocage de cette sorte. Et je reviens à Madame Taubira. Oui, il faut inventer des nouvelles formes de démocratie. Oui, et même nous qui sommes âgés, je vois autour de nous, même des gens qui n'ont pas pu, n'ont pas su voter, ils le regrettent vraiment. Et c'est vraiment un monde fou qui est prêt à suivre Madame Taubira. Et ça, peut-être les autres, il faut qu'ils se méfient.
Et,
on a de nouveau du courage, et on a de nouveau de l'enthousiasme et de l'espoir. Et voilà, pour notre gauche.
Alors,
l'autre Françoise, vous répondez Françoise.
L'autre Françoise, ce qu'elle pointe, qui est très juste, c'est je pense qu'il y a une aura autour de la personnalité de Christiane Taubira qui porte quelque chose que n'ont pas les autres. Et donc, elle peut, de ce point de vue, entraîner. Et ce qu'elle marque, c'est la considération. C'est-à-dire la considération par rapport aux citoyens.
Quand on entend, pardonnez-moi Françoise, les auditeurs précédents, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de très clivant, y compris au sein de la gauche, autour de Christiane Taubira? On l'adore, on est super fan, même parce que c'est de ce domaine-là, ou alors vraiment on n'y arrive pas, quoi.
Oui, absolument, mais elle a ce côté. Le problème, c'est que je pense qu'elle n'est pas prête. En fait, c'est ça, je le relis ça aussi à l'effondrement du Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'au fond, à gauche, la force qui avait prouvé qu'elle voulait le pouvoir et qu'elle était prête à gouverner, c'était le Parti Socialiste. Et depuis qu'il y a cet effondrement, les Verts, par exemple, les écologistes, il y a toujours ce soupçon. Est-ce qu'ils sont radicaux? Est-ce qu'ils sont lanceurs d'alerte? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment exercer le pouvoir? Et on voit bien qu'au fond, tout ce débat-là traverse la gauche aujourd'hui et n'est pas résolu. Christiane Taubira, elle est à la limite des deux, c'est-à-dire qu'elle dit j'ai de la considération pour vous, je veux être élue pour changer la vie, mais il manque le mode d'emploi très précis qui ferait que ça serait crédible.
En une minute, François, c'est tout ce qui nous reste. Vous avez évoqué les écologistes, et Rémi Lefebvre l'a fait juste avant vous. Si ça n'imprime pas, parce qu'on va le dire comme ça, s'il manque effectivement une dynamique qu'on pouvait imaginer, selon vous, la faute à qui? Est-ce que c'est aussi les confusions des Verts eux-mêmes, le spectacle de la primaire qui n'était pas forcément un beau spectacle tout le temps? Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça n'imprime pas?
La primaire, moi j'ai trouvé que c'était un spectacle intéressant parce qu'au fond on débattait devant les Français, et ce qu'on a vu, c'est qu'au fond les Verts étaient quand même très clivés entre des gens très très radicaux.
Ils n'ont pas choisi dans leurs deux branches, entre les Jadot et les plus radicaux.
Qui était prêt à s'allier, à faire une large alliance et à gouverner, et puis Sandrine Rousseau qui portait le combat féministe de façon très radicale. Et on a vu, on a pointé, en fait ça nous a permis de pointer du doigt l'un des enjeux. Êtes-vous vraiment prêt à gouverner et à quelles conditions?
Et cette réponse, on ne l'a pas encore. Enfin, en tout cas,
on l'a pas encore.
Et voilà. Il reste 69 jours avant l'élection présidentielle. On aura, j'espère, l'occasion d'en reparler ensemble. Portez-vous bien.